Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Les auditeurs les plus assidus s'en souviennent peut-être. Il y a 2 ans, le 30 avril 2015, Mathieu Vidard recevait des chercheurs en économie dans La Tête au Carré. Lors de cette émission, une proposition avait été formulée. Créer une chaire UNESCO en hommage à Bernard Maris, économiste, chroniqueur, sur cette antenne assassiné lors des attentats contre Charlie Hebdo. Quelques mois après, cette chaire a été acceptée par l'UNESCO. Elle a été inaugurée le 8 janvier dernier. La chaire UNESCO Bernard Maris, économie société, c'est son intitulé exact, va financer des travaux de recherche. Elle a aussi pour objectif d'inviter les citoyens à mettre l'économie en débat. Après tout, l'économie a suffisamment d'incidence sur nos vies et nos sociétés pour que nous nous y intéressions de plus près. C'est ainsi que 14 citoyennes et citoyens d'horizons divers ont été invités à aller à la rencontre d'économistes et à organiser une convention citoyenne sur l'économie. Elle s'est tenue avant-hier, samedi, à l'hôtel de ville de Paris. Alors, qu'est-il ressorti de ces rencontres entre non-spécialistes et chercheurs en économie? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Autour de la table, 2 citoyens qui ont participé à ces rencontres, Marie Goujon et Olivier Chartier. 2 économistes qui ont répondu à leur appel, Thomas Bréda et Antonin Potier. Également avec nous, Lionel Larquet, l'initiateur de la chaire UNESCO Bernard Maris. Bonjour à tous les 5.
Le bon réflexe d'un citoyen, ça va être de dire « au moins l'économie, je n'y comprends rien ». À ce moment-là, l'économiste est content parce qu'il va pouvoir expliquer quelque chose à laquelle il ne comprend pas grand-chose non plus, mais il a le jargon qui permet un petit peu de terroriser et de dissimuler des choses extrêmement banales, niveau café du commerce, sous des équations, ou sous des lois, ou sous des statistiques. L'économiste, c'est des choses extrêmement simples. Par exemple, on a la possibilité de fabriquer de l'argent, c'est possible à certains moments, c'est des choses assez simples. Ou par exemple, la loi de l'offre et de la demande, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que, en période de spéculation, si les prix augmentent, j'achète. C'est ce qui se passe à Paris en ce moment, hein. Donc, c'est pas du tout la loi de l'offre et la demande. Normalement, si les prix montent, je devrais pas acheter. Il se passe exactement le contraire. Donc, tout ça, c'est du bon sens, auquel on réfléchit très vite, et on peut en parler, tout le monde peut parler d'économie.
La voix de Bernard Maris en 2004 pour ouvrir cette Tête au Carré un peu spéciale. Lionel Larquet, quand vous avez imaginé avec votre association Alice la création de cette chaire UNESCO, Bernard Maris, il était important pour vous qu'elle fasse une place au questionnement de monsieur et madame tout le monde, justement.
Oui, tout à fait. C'était une chaire qui s'envisageait dès le départ sur 2 jambes, une chaire académique qui allait financer les travaux de recherche et une chaire citoyenne qui allait instituer différentes catégories de débats, de nature de débat entre des dits profanes et des experts. C'est aussi une chaire qui a une certaine culture du savoir et de la recherche. C'est une chaire humaniste, c'est une chaire d'une mémoire en marche, c'est une chaire d'une certaine culture du gai savoir à l'image de ce qu'était Bernard. Mais c'est aussi par l'effet de la conjoncture de facto, et j'imagine que cette émission va en donner la nature et la couleur, une chaire un peu de soutien psychologique aux économistes dont on sent bien qu'une partie d'entre eux souffrent de la nature même de leur inconfort dans leur propre discipline. On a vu hier dans Le Monde un appel du Conseil d'analyse économique qui essaie de se poser la question pourquoi ne sommes-nous pas écoutés. Il est probable que les citoyens auront des éléments de réponse à apporter au débat, et de fait c'est une chaire à l'image de Bernard où on affirme qu'il n'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux.
Ouais, alors au printemps de l'année dernière, en partenariat avec France Inter, vous avez lancé un appel à participation, un peu comme pour le jury du Livre Inter. Il s'agissait de recruter dans la population des volontaires pour venir interroger, questionner et un petit peu aussi bousculer les économistes.
Tout à fait, en accord avec Laurence Bloch, la directrice de France Inter et la rédaction, on a donc lancé un appel au printemps 2016 auquel une partie de vos auditeurs ont répondu, 1500 demandes, 300 dossiers complets et une 14aine de personnes qui sont ici autour de vous dans ce plateau qui ont répondu et qui ont donc suivi ces 3 week-ends de formation, la session publique et qui aujourd'hui vont donc discuter avec Thomas et Antonin pour divulguer la nature de leurs propres conclusions.
Oui, parce que leurs conclusions, il faut le dire, ils les ont rédigées cette nuit. Ils sont tous là autour de la table, ils n'ont pas tous parlé, mais ils sont tous là. Par contre, ils n'ont pas beaucoup dormi.
Une partie d'entre nous, d'ailleurs, a vécu une nuit blanche, puisque le document final, qui est désormais en ligne sur le site de la chaire Bernard Maris, a été finalisé à 8h02.
Oui, alors Marie Goujon et Olivier Chartier, vous avez répondu à cet appel. Vous faites partie donc de ces citoyens que l'économie intéresse. Pourquoi vous avez souhaité participer, l'un et l'autre?
Vas-y, Marie.
Ok, merci. Ben, moi, j'avais des raisons personnelles, d'énervement, d'étonnement, des gens qui meurent au travail, des répartitions de richesses de pire en pire. Enfin, voilà. Et puis, on s'est mis autour de la table et puis on s'est mis d'accord sur ce qui nous motivait tous ensemble, parce qu'on ne parle pas en son propre nom. On agrège ça ensuite dans un collectif. Ce qui nous a retenu, c'est la réduction des inégalités, respecter et vivre en harmonie dans notre environnement. Mais c'était également prendre soin des peuples confrontés au mouvement migratoire, et Dieu sait si c'est important actuellement. Mmh. Et puis limiter le contrôle des dérives de la finance.
Olivier Chartier, quel genre de questions vous, personnellement, vous posiez sur l'économie avant de participer à cette aventure que vous avez vécue comme ça, hein, vraiment, une aventure?
Oui. Moi, je l'ai vécue complètement par hasard en voyant un article sur Internet de France Info,
ouais.
Et auquel j'ai répondu en posant une question: à quoi ça sert? Et en fait, j'ai eu envie d'y participer en écoutant Bernard Maris tout à l'heure. Je peux vous dire que c'est pour ça que j'ai eu envie d'y participer. C'est pour que de nouveau, quelque chose d'iconoclaste, quelque chose de décalé, se fasse entendre dans un monde qui est complètement normé et qui a beaucoup de mal à en sortir, et dont nous avons constaté avec notre travail qu'ils ont énormément de demandes, de regards extérieurs pour pouvoir élargir, pour pouvoir ouvrir leurs portes, et même pour remettre en cause des choses sur lesquelles ils étaient persuadés de détenir des fondations bétonnées, et qui, en fait, quand on commence à creuser un tout petit peu en posant des questions profanes sur des concepts qu'ils nous ont exposés, on s'est aperçu que c'était fragile.
Oui.
Fragile. Parce que ça n'avait pas été remis en cause, ça avait été accepté comme des axiomes, comme des principes de base.
Alors, vous avez donc suivi ces trois week-ends de formation, hein, devant 35 économistes. Là, ils étaient censés vous former, vous donner le minimum de connaissances pour qu'ensuite, après, vous puissiez les remettre un peu en question. Donnez-nous des exemples de découvertes que vous avez faites lors de ces trois week-ends de formation. Marie Goujon.
Moi, j'ai une découverte, c'est que derrière mon poste de radio, je m'apercevais bien qu'il y avait des incompréhensions entre différents courants de pensée. À ce point-là, par contre, je tombais de l'armoire un petit peu. Hein.
Ils ne sont pas tous d'accord entre eux,
ah non,
c'est ça que vous voulez dire?
Pas du tout,
ouais.
Pas du tout.
Donc ça nous autorise, nous aussi, à douter, à nous immiscer dans le débat, puisqu'il n'y a pas une seule vérité dans
ça
le domaine.
Ça pose cette question, ouais. En tout cas.
Vous acquiescez, Olivier Chartier, c'est aussi une chose que vous avez remarqué.
La première surprise, c'est que je pensais que c'était un domaine qui m'était totalement inaccessible, réservé purement et durement à des spécialistes. Et ben, je vous rassure, tous les citoyens peuvent s'en emparer à partir du moment où ils en ont envie.
Ouais.
Et compte tenu de ce que j'ai ressenti en vivant ça, et je pense que tous ceux qui sont autour de moi l'ont ressenti de la même façon, moi j'invite tout le monde à le faire. Mmh. Tout le monde a essayé de participer à ça. C'est une façon de prendre notre vie en main. C'est une façon de peser dans les décisions. Mais il y a autre chose. Nous avons été formés. Mais moi, j'aimerais bien que tous les deux, vous nous disiez si en retour, vous avez eu de notre part quelque chose, ouais, qui s'apparente à une forme de formation.
Tous les deux, ce sont donc les deux économistes ici présents qui complètent un peu notre discussion. Thomas Breda, vous avez donc participé à ces week-ends de formation en tant qu'économiste formateur. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et chercheur à l'école d'économie de Paris, spécialisé en économie du travail. Vous pouvez répondre à cette question. Est-ce qu'ils vous ont apporté quelque chose?
Ils vont le faire, sans doute. C'est encore difficile. Enfin, je me dois d'être totalement honnête. Je trouve la démarche et l'initiative extrêmement sympathique. Pour être tout à fait honnête, à ce stade, j'ai pas eu encore beaucoup de retours de votre part. Donc
ouais, c'est tout chaud. Hein.
Mais je suis certain qu'en lisant plus attentivement vos recommandations et nos échanges futurs, je vais pouvoir conclure positivement, ouais, à cette question.
On va en entendre quelques-unes de leurs recommandations qu'ils ont justement tirées de ces week-ends de formation et de cette convention qui se tenait samedi dernier. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces moments de formation? Vous avez été surpris par leurs questions, par leur degré de connaissance?
Oui, en partie. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement sympathique et stimulant d'intervenir dans ce cadre-là. Alors, il s'agissait pour ma part d'essayer de faire un exposé de ce qu'était l'économie du travail, qui soit relativement neutre, qui présente les différentes théories, celles qui sont dominantes, celles qui le sont moins, qui soit accessible et qui puisse les intéresser en partie. Et ça, cet exercice-là, j'ai trouvé stimulant et j'ai eu l'impression qu'ils ont été intéressés. Ils ont aussi posé à la fin des questions parfois un peu dérangeantes.
Du genre ?
du genre, oulala, alors il faut que je me souviens de quelque chose sur la réduction du temps de travail.
Elles vous ont pas dérangé tant que ça, si vous ne vous en souvenez plus.
Non, j'ai continué à dormir la nuit.
Moi, je m'en souviens d'une. Hein.
Alors, allez-y.
Est-ce que le travail peut être marchandisé? Mis en marchandise.
Est-ce que le travail peut être mis en marchandise? Oui, ça, c'est une question difficile. Je ne suis pas sûr de la comprendre tout à fait. J'ai envie de dire que non, mais... Quelle serait la réponse plus détaillée à ça? Non, le travail, c'est pas qu'une marchandise. Alors, si je peux peut-être donner une réponse un tout petit peu étendue. C'est vrai que dans un certain nombre de modèles économiques, on considère le modèle typique très dominant qu'on appelle modèle d'offre de travail. On va considérer que les individus qui maximisent leur bien-être vont essayer de maximiser la somme de leur consommation, ce que leur apporte leur consommation en bien-être, et de ce que leur apporte leur loisir en bien-être. Et pour pouvoir consommer, ils vont travailler. Donc le travail, dans ces modèles-là, ils sont très répandus, est uniquement générateur de revenus pour consommer, et consommation qui procure donc de la satisfaction. Et à aucun moment on va modéliser ou essayer d'appréhender le travail comme lui-même source de satisfaction ou insatisfaction potentielle.
Le deuxième économiste autour de cette table, c'est vous, Antonin Potier. Vous faisiez partie, vous n'avez pas fait partie des formateurs, mais de la vingtaine d'économistes qui a participé donc samedi à cette grande convention où vous avez été questionné par ces citoyens. Vous êtes chercheur en économie au CERNA, le Centre d'économie industrielle de l'École des Mines de Paris. Vous avez récemment publié aux éditions du Seuil un livre intitulé « Comment les économistes réchauffent la planète ». Ça situe un peu votre champ d'action et vos centres d'intérêt. Comment se sont passées les discussions samedi?
Les discussions étaient très intéressantes, d'avoir ces questions en fait souvent assez générales mais du coup pertinentes sur l'état de la discipline. Le regret en tant que chercheur, c'est d'avoir trop peu de temps pour expliquer. Il aurait fallu que la convention dure non pas une journée mais une semaine ou un mois ou ouais. Toute une vie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça qui est frustrant, mais je pense que il y aura ensuite du retour à faire sur nos travaux à partir des questions qui ont été posées.
Alors, vous estimez ne pas avoir eu assez de temps pour expliquer. Il y avait la question qui vous était posée. Est-ce qu'ils vous ont apporté quelque chose? Est-ce qu'aussi vous auriez voulu plus de temps pour qu'ils vous remettent un peu plus en question? Il y avait aussi cette idée. Hein, ils étaient un peu venus vous secouer. Hein.
Je pense que la question qui était la première, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'il y a eu une formation, aurait, à mon avis, intéressante. C'est-à-dire que peut-être que les économistes ou les experts doivent subir une formation pour prendre ce qu'ils peuvent prendre du côté des profanes. Et c'est vrai que là, la discussion est parfois pas trop rapide pour engager une véritable remise en cause.
Quand un panel de Françaises et de Français rencontre une vingtaine de chercheurs en économie, que se raconte-t-il? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette Tête au carré réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Chantal Le Montagnier. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Shake. wanna never touch me. I would've never thought I'd be. My enemy.
Alors vous savez ce que c'est qu'un économiste ? C'est le type qui est toujours capable d'expliquer le lendemain pourquoi il s'est trompé la veille.
C'était Parcells, My Enemy sur France Inter dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Et on s'intéresse à la recherche en économie et à la façon dont les citoyens non spécialistes pourraient prendre part aux débats qui sous-tendent cette discipline. Autour de la table, Lionel Larquet, à l'initiative de la chaire UNESCO Bernard Maris, Sciences Société, Marie Goujon et Olivier Chartier, membres d'un panel citoyen chargé de questionner des économistes sur leur travail, et Thomas Breda et Antonin Potier, chercheurs en économie. D'ailleurs, l'économie est-elle vraiment une science? Dans quelle mesure les études peuvent-elles biaiser par des dogmes ou des idéologies? Je vous propose d'écouter à ce sujet Bernard Maris.
La force de l'économie, c'est qu'elle arrive comme une vérité d'évidence, comme une neutralité. Quelque chose, c'est un discours qui est neutre, qui ne dit ni le bien ni le mal, qui est scientifique, qui a la neutralité de la science, et donc qui arrive comme des choses normales. Il est évident qu'il est normal qu'il faut faire pression sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Il est évident qu'il ne faut pas d'inflation. Peu importe que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation ait accru les inégalités de façon phénoménale et conduit à la misère un certain nombre de gens dans des pays, ait accru les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, et créé une caste de rentiers qui sont en train d'occuper le devant de la scène et fait disparaître le pouvoir des États, soit en train de briser la sécurité sociale, peu importe toutes ces conséquences, il y a une vérité d'évidence, vous n'êtes pas pour l'inflation quand même, vous n'êtes pas pour l'inflation. Or, si on regarde la vérité et l'histoire, on voit que les moments rarissimes où le capital a été un petit peu muselé, par exemple pendant les 30 Glorieuses, c'était plutôt des périodes inflationnistes où effectivement la part des salaires pouvait augmenter parce que les gens qui empruntaient pour construire leur maison ou des choses comme ça, eh bien, grâce à l'inflation, arrivaient à éponger rapidement leurs dettes. Maintenant, c'est une économie inverse, c'est une économie de rentiers. Alors, on pourrait dire plutôt, voilà, voulez-vous que ce soit les rentiers qui dirigent le monde ? On préfère dire, vous êtes contre l'inflation, bien sûr.
Extrait du documentaire Oncle Bernard, l'anti-leçon d'économie. Du coup, je vous pose la question, Thomas Breda, économiste. Est-ce que, pour vous, l'économie est une science ou une science comme les autres ?
C'est une science sociale comme les autres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire au même titre que les sciences politiques ou la sociologie, par exemple. On travaille sur de l'humain et, par conséquent, il n'y a pas toujours de vérité totale. Une chose que je voudrais quand même ajouter à cela, c'est que on peut distinguer quand même l'élaboration de faits statistiques. Et il y a une grande révolution quand même en économie avec la mise à disposition de bases de données de plus en plus riches qui permet d'avoir une représentation du monde partielle parce que statistique, hein, et ça ne suffit pas, il faut aussi faire des études de terrain, etc. Mais quand même chiffrer. Et qui permet par exemple aussi d'évaluer des politiques publiques avec des méthodes qui se veulent scientifiques et qui, je pense, sont scientifiques. Et sur ces points-là, on peut considérer que la démarche est relativement scientifique. Maintenant, sur ensuite l'interprétation des faits, les modèles qu'on fait, la manière dont on les interprète, là, il y a toujours discussion. Mmh. Je pense que c'est important de séparer les deux, parce que même au sein du corpus des chercheurs qui sont pas du tout d'accord entre eux et qui souvent se battent âprement, il faut au moins qu'on puisse faire émerger l'ensemble des faits statistiques tels qu'ils sont dans un monde où les médias, quand même, donnent souvent la parole à des gens qui produisent des rapports totalement erronés à longueur de journée, quoi. Donc, il y a quand même aussi cet enjeu de faire valoir cette base de travail commune qui, elle, je pense, est scientifique.
Alors, Antonin Potier, c'est vrai, en tout cas, qu'il y a tous les outils formels de la science, hein, des mathématiques, des statistiques, des modèles informatiques. On a l'impression que les outils donnent une impression de science très solide quand on parle d'économie. Et pourtant, il y a toujours ce sentiment que on ne voit pas les choses venir, qu'effectivement, en fonction de ses orientations politiques, de son idéologie, les conclusions que l'on va donner sont très différentes.
Effectivement, la question de savoir si l'économie est une science est une très bonne question, et c'est quelle est la science qui correspond à quelle est l'image que l'économie veut donner d'elle-même. Et le problème, c'est que l'économie veut pas être une science sociale. Enfin, à mon avis, pendant longtemps, n'a pas voulu être une science sociale, ne veut toujours pas être une science sociale, et se conçoit à l'image de la physique ou à l'image des mathématiques, à l'image en fait des sciences dures et naturelles. Mmh. D'où cette idée, comme le disait Bernard Maris, d'une naturalisation des faits sociaux et qui fait que en fait des dogmes ne sont pas interrogés. Et donc ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une sociologie particulière à la discipline économique, donc une sociologie des économistes, qui est que la discipline économique est une discipline très hiérarchisée, avec une structure donc en fait de reproduction des dogmes qui se perpétuent de génération en génération. Alors ces dogmes évoluent un peu, mais on a effectivement comme ça un certain nombre de présupposés qui restent et qui sont enkystés dans les modèles, dans les outils scientifiques qui sont mobilisés pour produire les faits. Donc certes, il y a eu un travail actuellement toujours en cours de retour aux données, de retour au réel, mais même dans ces interprétations qu'on peut fournir là, on a toujours dedans, et parfois même les économistes n'en sont pas même conscients, on a toujours dedans des formes politiques qui ont été héritées du changement en fait de société qu'il y a eu au moment où on a placé comme régulateur principal des relations entre les hommes le marché.
C'est-à-dire, pour être très concret, qu'un jeune chercheur, un étudiant qui décide de devenir chercheur en économie, pour qu'il soit reconnu par ses pairs, par les scientifiques qui sont déjà dans le sérail, il faut en gros qu'il rentre dans un certain moule, qu'il adopte certaines théories comme acquises. Il ne peut pas être tout de suite à contre-courant.
Disons qu'il y a effectivement un certain nombre de codes à respecter. Alors ces codes peuvent varier en fonction des chapelles, mais il y a des chapelles qui sont plus majoritaires que d'autres. Et effectivement, l'adoption de ces codes se fait sans forcément qu'il y ait de réflexion. Et c'est là où on a évoqué, dans les recommandations des panels citoyens, évoqué la très importante question du pluralisme. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y ait du pluralisme, notamment au niveau de l'enseignement, pour que tout le monde soit confronté, au niveau de là, je parle d'enseignement universitaire, hein, quand on suit effectivement un cursus d'économie, qu'il y ait donc ce pluralisme qui soit là, pour que tous les étudiants puissent être confrontés à des théories alternatives, à celle au paradigme dans lequel ensuite ils s'inscriront. Parce que sinon, ils ne connaissent pas les critiques forcément de ce paradigme-là, et prennent le savoir qui leur est inculqué comme étant eh bien effectivement une donnée de nature. Et ça, je crois que c'est très important de relativiser toutes ces choses, et faire un détour par l'histoire de la pensée économique me paraît essentiel.
Marie Goujon et Olivier Chartier, vous êtes donc les représentants de ce panel citoyen. Je vous voyais acquiescer en entendant nos économistes. Vous, ce qui vous a frappé, c'est que c'est un secteur, les économistes le disent aussi, leur discipline est en crise. Ils traversent un petit peu eux-mêmes une crise. C'est quelque chose dont vous aviez conscience, ça?
Alors, comme je disais tout à l'heure, pas à ce point-là. Le problème, c'est que nous serions en crise actuellement, et comment une science qui elle-même est en crise peut faire face à des problèmes de crise. Donc, il y a peut-être déjà à régler ces problèmes-là, avec pouvoir se parler entre soi, mais pas qu'entre soi, c'est-à-dire déjà être d'accord entre soi sur les différents courants, et puis aller convoquer de l'histoire, comme disait Robert Boyer il y a deux jours, d'aller convoquer de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Parce que les économistes sont spécialistes de l'économie en tant que science, mais les citoyens que nous sommes, tous ici, et économistes y compris, sont spécialistes de problèmes qui se posent à eux au quotidien.
Vous avez l'impression que ça se rencontre pas, c'est-à-dire que ils évoluent un peu dans une sphère déconnectés avec des modèles qui, eux, sont parfaits, mais qui ne s'appliquent pas à une société qui, elle, est imparfaite parce qu'elle ne colle pas avec leur modèle. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de déconnexion ?
Il y a un jeu compliqué, parce qu'il y a aussi, chacun se manipule. Moi, je le vis comme ça, et nous en avons discuté ensemble dans le panel. C'est-à-dire qu'il y a le politique qui demande à l'économique d'avoir des réponses, et puis plutôt celle-ci. Il y a l'économie qui dit, bah oui, mais moi, je veux bien éclairer la chose. Et on pourrait parler aussi des, on va peut-être en parler, hein, des conflits d'intérêts, parce que les économistes ne sont pas que des universitaires, ils sont parfois autre chose, mais qui n'est pas présenté à l'oreille de l'auditeur ou du téléspectateur. Et ça pose des sacrés problèmes.
Je vous vois écouter attentivement ces réflexions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'adresse évidemment aux économistes, Thomas Breda.
Et ce que je crois, c'est qu'il y a effectivement dans le processus de publication, la recherche économique, une forme, un peu comme disait Antonin Potier avant, une forme de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est à la fois très beau, mais qui a des inconvénients, c'est l'évaluation par les pairs. Donc ça, quand on est chercheur, on soumet des articles, et c'est des pairs, d'autres chercheurs qui les relisent, qui jugent la qualité. Et il y a donc ce gage de qualité pour une publication scientifique. C'est pour ça que ça n'a pas la même valeur qu'un rapport quelconque d'une institution. Il y a des critères à respecter. d'humanité. Maintenant, certains domaines de recherche sont tenus par des grands pontes qui aiment publier des articles qui ressemblent à leur propre recherche. Donc il y a comme ça un phénomène où les champs de recherche peuvent continuer à vivre et à perdurer éternellement parce que, et de manière de plus en plus déconnectée du réel, parce que il y a de jeunes chercheurs qui ont besoin pour leur carrière de publier, vont publier dans ces domaines où des chercheurs plus expérimentés vont continuer à être satisfaits d'avoir des jeunes qui font des recherches un peu similaires aux leurs. Donc il y a un peu ce problème-là qui est difficile à résoudre.
Antonin Potier, cette idée de déconnexion entre le monde de la recherche en économie et puis nous qui vivons pleinement cette économie, vous en êtes conscient, vous êtes d'accord ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans mes travaux, j'essaie justement de comprendre les racines épistémologiques de ce problème et comment est-ce que l'économiste construisait un monde justement à partir de modèles et qu'il passait plus de temps à étudier ce monde plutôt qu'à essayer de savoir est-ce que le monde qu'il avait construit correspondait au monde réel. Mais il y a une particularité supplémentaire de l'économiste qui est qu'en fait, il cherche à faire en sorte que le monde réel devienne le monde qu'il a construit. Et toutes les tentatives de régulation et d'imposition, de traitement des problèmes sociaux par le marché participe en fait de ça. Mais là, je crois qu'il ne faut pas non plus être stupide et juste penser qu'il n'y a que les économistes qui participent à ça. Là, il y a effectivement un choix politique très clair qui a été fait à la fin des années 70, entre 1970 et 1980, qu'on peut associer au néolibéralisme, et qui a consisté à justement déployer ces marchés, que ce soit dans beaucoup de domaines, dans le traitement des problèmes sociaux, dans les questions de commerce. Et donc là, les économistes ont pu aussi servir d'idiot utile face à ces théories politiques. Donc, faut un peu complexifier la chose. Il y avait effectivement, je crois que c'était ce qui a été dit par Marie Goujon, il y a vraiment une relation duale entre les politiques, les économistes et aussi la société, parce que ça correspond à certaines attentes de certains acteurs sociaux, ce qui a été fait. Donc, voilà, la responsabilité est partagée, mais ensuite, je pense que les économistes devraient être beaucoup plus prudents sur l'utilisation qui est faite de leur modèle.
Ouais, à garder en mémoire la prochaine fois qu'on entendra des analyse d'économistes. Dans un instant, vous allez nous faire part, Marie Goujon et Olivier Chartier, de vos conclusions et des demandes que vous avez décidé d'adresser aux économistes suite à ces rencontres. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Mais tout de suite, on écoute les très poétiques ferrofluides fleurs de Clos Pelgag. J'ai les yeux fermés.
Daniel Fievé.
Une tête au carré consacrée à l'économie, à la recherche en économie, et puis à l'idée que les citoyens peuvent y mettre leur grain de sel. Et cette initiative, elle intéresse nos auditeurs apparemment. On a de nombreuses questions pour vous. Par exemple, Jeanne demande quelle a été la formation des citoyens, combien de temps cela a duré. Vous vouliez y répondre, Olivier Chartier.
C'est une question qui me tient à cœur. Alors, je vais vous montrer par l'exemple ce qu'un panel de citoyens sympathiques peuvent apporter... Ouais.
Sympathique, c'est en réponse à notre économiste, Thomas Breda.
Peuvent apporter à la réflexion sur la science économique en 2 mois, en partant de quasiment 0 connaissance à part le vécu de terrain du consommateur lambda. La première, c'est qu'à votre table, Monsieur Breda,
qui est peut-être monsieur un économiste lambda.
Non, c'est pas ça, je l'ai intégré comme la variable habituelle de l'homo economicus dans la théorie.
Oula.
Donc, Monsieur Breda, à votre
parlez
table,
bien devant votre
il
micro.
Il y a une économiste, pardon, qui au début était complètement bloquée sur ses indicateurs et qui, à la fin de l'heure et demie de la convention à laquelle vous avez participé, a fini par nous dire « Peut-être que finalement, mes indicateurs sont pas si fiables que ça et qu'on devrait peut-être les revoir. » Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est... pour la sécurisation des parcours des jeunes chercheurs et des chercheurs en économie. C'est une des recommandations du panel. Nous recommandons à ce que les parcours des chercheurs en économie soient sécurisés pour leur permettre de choisir des thèmes de recherche qui ne sont pas des thèmes de recherche habituels, orthodoxes, standards, tout ce que vous voulez, et de façon à ce qu'ils puissent creuser, explorer des pistes que jusque-là, ils ne pouvaient pas faire parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, leur carrière et leur plan de carrière dépend du type de sujet qu'ils doivent poser sur la table. Et comme on entend tout le temps les mêmes sujets à la radio, qu'on ne sait pas qui parle, par qui il est payé et de quelle école il appartient, une autre recommandation a été faite par le panel, c'est que les économistes créent une charte de déontologie professionnelle où ils doivent annoncer qui ils sont, de quelle pensée ils sont et qui les finance. Et il y a une troisième mène derrière, c'est un contrôle du CSA pour que le temps de parole de toutes les écoles de la pensée économique ait une possibilité de s'exprimer sur les grands médias et s'adresser aux citoyens pour qu'enfin on puisse se saisir des choses. Et je le redis, venez tous vous saisir de ce sujet-là, c'est passionnant, c'est accessible. Et c'est très utile.
Alors, je vais faire réagir les deux économistes qui sont autour de la table à ces premières propositions, mais ça me permet d'ajouter quelques réflexions de nos auditeurs qui effectivement sont intéressés par cette démarche. Alors, certains nous demandent comment le panel citoyen a-t-il été choisi ? Premier arrivé, premier servi, point d'interrogation, ou une sélection s'est-elle faite ? Lionel Larquet.
Ah non, la sélection a été faite de façon très rigoureuse avec des scientifiques, sociologues qui ont l'habitude de gérer des panels de ce type-là, notamment Loïc Blondiot, Marie-Angèle Hermite, Pierre-Benoît Joly, qui ont été ceux qui ont analysé les biographies, les conditions socio-professionnelles, les motivations des acteurs, qui permettaient d'illustrer des implicites de la part de chacun de ces citoyens-là. Il a été donc débiaisé, puisqu'il y a un biais du simple fait qu'on s'est d'abord adressé à des auditeurs de France Inter, et les auditeurs de France Inter ne sont pas la France dans sa compétition. Donc on a débiaisé en termes de position idéologique, géographique, de genre, d'âge et de catégorie socio-professionnelle. Donc ça n'a pas été le premier arrivé, le premier servi.
Vous avez débiaisé nos auditeurs. Renaud vous demande, bonjour, y aura-t-il d'autres sessions de formation rencontre et est-il possible de s'inscrire, si oui, où ? C'est-à-dire que ceux qui ont loupé le coche cette fois-ci voudraient pouvoir participer s'il y en a d'autres.
Il faut laisser quelques minutes aux auditeurs, on donnera la réponse à la fin de l'émission.
Ah oui, suspense. Une réaction de nos économistes aux premières recommandations formulées par Olivier Chartier.
Non, par le groupe.
Par le groupe, effectivement, mais c'est dans votre voix, Olivier Chartier.
Mais je les trouve très bonnes. La difficulté, c'est de les mettre en pratique. Donc, par exemple, représenter toutes les écoles, donner la même voix dans les médias à toutes les écoles de pensée, il faut être capable de définir qu'est-ce qu'une école de pensée, recevable ou pas. Et la science économique, c'est la recherche en général, est très concurrentielle. Donc, il y a des écoles qui vont dominer à certains moments. Et comment dire qu'une est meilleure que l'autre ? Je prends un petit exemple. Prenons le climat. On a le GIEC d'un côté, imminent rassemblement de centaines, de milliers de chercheurs. Et puis, on a quelques climato-sceptiques qui ont été d'éminents chercheurs, comme Claude Allègre, qui disent « Ah bah, non, en fait, ça ne se réchauffe pas. » Alors, comment on fait dans ce cas-là? On donne le même poids dans les médias aux deux? Comment réussir à définir qu'est-ce qu'une école? Mais bon, ça, je pense que ça sera un travail pour nous autres chercheurs d'essayer de revoir nos institutions pour être à même de réaliser ces propositions.
Vous leur répondez pas si simple, aussi simple à faire qu'à dire, en fait.
Je leur réponds ça. Ouais, un peu.
Alors... Mais on fait appel à leur intelligence. C'est clair. La discipline dans laquelle ils travaillent est une discipline complexe. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Oui. Donc, il faut qu'ils convoquent les autres disciplines. Il faut qu'ils se convoquent entre eux, entre différentes écoles, et qu'ils définissent des ossatures qui vont leur permettre de déterminer des encadrements et des structures qui vont aboutir aux préconisations qu'on vous a posées sur la table.
Alors, Marie Goujon, un autre exemple de recommandation auquel a abouti votre discussion.
Il y en a une qui nous tient à cœur, moi particulièrement, c'est la formation. Se former, c'est devenir citoyen. Et pour être citoyen, c'est être capable de comprendre ce qui nous touche, comprendre notre environnement. Et pour ce faire, il y a besoin de l'économie. Mais de l'économie au sens large et puis compréhensible, voire vulgarisée. Mais il y a besoin aussi de sociologie, de psychologie, etc. Il y a plein de sciences comme ça. Et le problème, c'est que comme il y a une lutte, et c'est qui remportera le bout de gras, en gros, et de dire que l'homme est surtout mu par la satisfaction de ses intérêts propres, on est un peu mal barré, parce que ça renvoie au citoyen qu'il est avant tout un consommateur, et que des valeurs telles que la fraternité, l'altruisme n'ont plus voix.
Évidemment, on aurait voulu pouvoir aborder davantage de ces conclusions, mais elles sont toutes en ligne et dans leur intégralité. Lionel Larquet, où est-ce qu'on peut consulter cette adresse citoyenne aux économistes?
Elle est téléchargeable sur le site de la chaire UNESCO Bernard Maryse, donc chairebernardmaryse.alice.org, donc depuis ce matin, 8h04.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant en 15 secondes, malheureusement, parce qu'on va se quitter, mais la suite de l'aventure, c'est quoi pour cette chaire Bernard Maryse?
De la vie même de tous les économistes, cette expérience-là est une expérience réussie, donc il s'agit de la prolonger. Il y aura donc des suites dans la ville de Toulouse à l'automne 2017 avec nos amis de Sciences Po Toulouse. Il y aura un appel à candidature académique internationale qui sera lancé par le biais d'un document de cadrage dirigé par James Galbraith, ancien conseiller de Bill Clinton. Ce titulaire qui sera sélectionné sera en poste en France à partir de 2018 et il travaillera avec un écosystème de chercheurs à Paris et à Toulouse pendant 3 ans, plus 2 ans après évaluation avec l'UNESCO.
Et on est très fiers à France Inter d'être partenaire de ce projet, de cette chaire UNESCO Bernard Maryse. Merci à tous les 5.